Je remercie infiniment d'être venu dans notre séminaire, puisque vous ne faites pas partie du champ infanto-juvénile, hein, mais vous faites partie du champ des neurosciences, et on est très content d'accueillir des vrais neuroscientifiques. On a un peu du mal à les avoir dans l'auditoire, je vous laisse vous présenter.
Bonsoir, d'abord merci de l'invitation, merci à Lisa Wuss et à son comité. J'ai un parcours de neurologue, tout à fait classique, de clinicien, qui a commencé avec des mouvements anormaux involontaires et qui aujourd'hui soigne des tumeurs cérébrales. Côté de ça, je suis un chercheur, commencé dès l'internat, et je dirige aujourd'hui une unité d'INSERM qui était à un moment au Collège de France, qui est maintenant localisée dans un nouveau centre de psychiatrie et de neurosciences qui vient d'être créé à l'hôpital Sainte-Anne et qui s'occupe donc de neurosciences plutôt tournées vers le fonctionnel et l'adulte, épilepsie, tumeurs cérébrales, mais aussi des troubles psychiatriques de type schizophrénie. Et un petit lien, c'est qu'une des équipes de mon labo s'occupe aussi des tumeurs de l'enfant, et tout particulièrement ici avec les neurochirurgiens de Christian Saint-Rose. Donc ça, c'est la personne qui parle, qui a un parcours d'éthique qui commence avec de l'éthique très pratique, et je vais revenir sur les définitions parce que je crois que c'est important, et qui aujourd'hui siège au comité d'éthique de l'INSERM, et peut-être tout à l'heure, vous aurez des questions sur certains rapports dont l'INSERM a pu prendre la responsabilité et que le comité d'éthique a analysé d'une façon extrêmement critique. L'éthique, la morale, on ne va pas commencer à jouer les pédants, mais vous savez que ça vient de la même racine. Dans un cas, c'est grec, éthikos, dans l'autre cas, c'est latin. Et pourtant, la connotation est extrêmement différente. La morale renvoie tout de suite à un certain nombre de normes. L'éthique renvoie à une pratique de ces normes. Et dans les deux cas, c'est comment se conduire pour une bonne vie. À partir de là, on peut distinguer différents niveaux dans l'éthique. Il y en a un qui est de l'ordre du code pratique professionnel, c'est la déontologie. Ça dérive de l'éthique et d'une éthique utilitariste que les philosophes anglais du XVIIe et du XVIIIe siècle, et tout particulièrement Jeremy Bentham, ont développé. Et c'est ça la déontologie. Et si vous ne respectez pas les règles de votre ordre professionnel, vous en êtes exclu. Vous pouvez être interdit de pratiquer la médecine si vous ne respectez pas le code de déontologie. Il en est de même pour les pharmaciens, pour les avocats, etc. C'est pas de ça du tout qu'on va parler ce soir. Il y a une éthique professionnelle qui est la discussion sur comment bien se comporter dans le cadre de sa profession. Certaines relations avec les confrères ou les collègues, certaines relations avec les clients ou les patients. Ce n'est pas encore normatif, c'est souvent pré-normatif. Ça, pour l'éthique médicale, c'est les discussions que je peux avoir sur comment on annonce un diagnostic d'une tumeur à un patient, ou vous, comment vous prenez en charge un enfant qui a un trouble qui peut évoquer, ou un trouble neurologique, ou un trouble de type autistique, ou d'autres troubles que je ne connais pas. Ce n'est pas encore de ça qu'on va parler ce soir. Il y a une troisième dimension de l'éthique, qui est née dès le début du siècle, grâce ou à cause des progrès des connaissances dans les sciences de la vie, et qui s'est formalisée au moment de Nuremberg, dont nous fêtons, entre guillemets, cette année les 60 ans, et qui concerne la répercussion dans le champ social des connaissances acquises dans le champ des sciences de la vie. Et ça commence par des choses dramatiques, la stérilisation de centaines de milliers de malades mentaux à travers le monde, et pas seulement chez les nazis, chez les Américains, en Caroline du Nord, en Scandinavie, en France. C'est les ravages de l'eugénisme avec des formalisations comme Alexis Carrel ou Spemann, qui étaient des très grands scientifiques, qui ont fait des découvertes extrêmement importantes dans le champ du développement, mais ensuite qui ont pu formaliser ça dans le champ social de façon extrêmement contestable. Et vous en voyez encore aujourd'hui des reliquats ou des éléments incroyables quand vous entendez un prix Nobel comme James Watson s'exprimer de façon clairement raciste en évoquant la génétique. Et puis, évidemment, c'est les crimes nazis et la prise de conscience que les connaissances acquises dans le champ social nécessitent une réflexion qui associe bien sûr les scientifiques et les médecins, mais qui concerne l'ensemble de la société, c'est l'émergence de la bioéthique, c'est-à-dire comment les connaissances qu'on acquiert dans le champ des sciences de la vie se répercutent sur notre façon de vivre ensemble, sur cette bonne vie dont je parlais tout à l'heure, et sur la pratique qui nous permet d'entretenir avec les autres de bonnes relations. Alors, je ne vais pas évoquer des dizaines d'ouvrages concernant la bioéthique, ni même les 200 et quelques pages du livre que j'ai consacré à l'impact des connaissances en neurosciences sur les questions d'éthique. On va essayer d'en aborder quelques-uns, et un peu plus particulièrement reliés à votre pratique de pédopsychiatre, tout en précisant que je ne me suis jamais occupé que d'adultes dans ma pratique professionnelle. Donc pour dire que la pratique pédopsychiatrique ou pédiatre, de neuropédiatre, comme j'ai entendu tout à l'heure, je ne l'ai pas. Mais je vais essayer d'adapter ce que j'ai dit dans le livre à ces questions de l'enfant. Et pour la commodité des choses, on va diviser la discussion, parce que je vais vous faire une introduction, j'espère aussi brièvement possible, et je crois que c'est un débat, vos réflexions, les réactions que je peux en avoir, et c'est ça l'éthique, parce que je ne chercherai pas à avoir raison sur vous, et inversement, l'objet de la discussion de ce soir, c'est de vous permettre d'avoir quelques éléments de réflexion en sortant. Si j'ai réussi ça, j'aurais formidablement réussi la soirée. Alors, deux choses, disais-je. D'un côté, l'utilisation pratique qui peut être faite aujourd'hui des connaissances acquises et des molécules ou des pratiques de soins qui en résultent dans le champ social. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, les connaissances acquises en neurologie, que ce soit la neuropharmacologie, que ce soit la neurophysiologie, permettent d'agir sur les appétits. Appétits au sens alimentaire, mais aussi appétit sexuel, sommeil, demain des processus de mémorisation, aujourd'hui déjà l'humeur. On a aujourd'hui toute une panoplie de molécules, médicaments quand il s'agit de soigner, on va revenir sur comment les appeler quand il s'agit de faire autre chose que soigner, qui nous permettent d'agir sur des comportements, que ce soit des comportements neurovégétatifs ou que ce soit des comportements beaucoup plus élaborés quand on parle de l'humeur ou des troubles de l'humeur. Ça, c'est une première partie qui va concerner la correction des troubles quand il s'agit de pathologie ou l'amélioration de la performance, qui est le vrai questionnement éthique. Deuxième partie concerne le fait que les connaissances acquises en neurosciences vont totalement bouleverser notre façon de concevoir le vivant en général, mais de concevoir le système nerveux en particulier. Et j'entendais en fin de votre discussion précédente revenir à de multiples reprises dans votre propos le terme de regard. C'est vrai qu'aujourd'hui, en neurosciences pures, nous savons que les paroles de Lévinas sont réelles, sont vraies. C'est-à-dire que nous naissons, nous nous sculptons, nous évoluons en termes neurobiologiques, en termes de synapses, en termes de construction de notre système nerveux dans le regard de l'autre. Et que, hors du regard de l'autre, la construction du soi, au sens neurobiologique, encore une fois, je ne suis pas en train de vous parler de psychanalyse, est un élément réel, et on essaiera de discuter tout à l'heure un peu plus comment est-ce que ces faits, qui sont partiels aujourd'hui, qui ne sont que des bribes du savoir, mais qui sont en train de se construire, avec l'imagerie cérébrale en particulier, vont bouleverser notre façon de concevoir le fonctionnement de notre cerveau, mais ça, au fond, ça pourrait être un exercice intellectuel, mais évidemment, la façon de concevoir le cerveau de l'autre et de concevoir les pratiques de soins, celles que vous avez aujourd'hui, les références, il va falloir réinterpréter. On ne peut pas s'arrêter là. Si Freud revenait aujourd'hui lui-même, lui qui voulait voir dans le cerveau l'origine de toute chose, il commence narcissisme comme ça, il reviendrait aujourd'hui, il serait fou de joie, il ferait de l'imagerie cérébrale et certainement il écrirait des choses totalement différentes que des textes qu'on voudrait, enfin que certains en tout cas voudraient utiliser comme des bibles figées. Alors commençons par le premier aspect. Ben, le premier aspect, au fond, on peut, je vais être un peu provocateur, hein, et là-dessus, n'hésitez pas tout à l'heure à nous reprocher d'être provocateur. On va le prendre sur ce qui pour moi est la caricature, c'est-à-dire le syndrome des enfants agités. Mais au fond, on pourrait le prendre sur beaucoup de choses. Qui n'a pas eu la tentation au moment où un enfant fait ses dents de donner un peu de terre à laine, de secouer un peu un môme turbulent, et puis d'autres enfants, ils ont des troubles du sommeil. On a tous donné une cuillère de fleur d'oranger, ou de l'eau sucrée, ou des choses comme ça, parce qu'on a besoin nous aussi d'aller bosser le lendemain matin. Et on peut en prendre X autres. Je ne vais pas aborder des choses plus complexes ce soir, mais on pourrait en discuter. Combien de parents angoissés viennent vous voir ? Mon enfant travaille mal à l'école, il apprend pas, il écrit pas, il écrit mal. Bon, résumons d'un terme clair. Nous sommes dans des sociétés de la performance. Nous sommes dans des sociétés où la question dont il était tout à l'heure... qui était tout à l'heure évoqué de façon sous-jacente à travers les tests que vous avez abordés, c'est la question de la norme. Et la question de la norme dans une société de la performance, elle est dans un mouvement dynamique vers les plus hauts niveaux. Certes, la normalité de la vision, c'est 10 dixièmes, mais certains ont 12, certains ont 15, certains ont 20. Il y a une chirurgie de la cornée pour permettre à des myopes qui n'ont que 8 dixièmes de passer à 10 dixièmes, mais pourquoi pas, chez quelqu'un qui a déjà 10, pouvoir obtenir 12. Peut-être que si je veux être pilote de ligne, peut-être que si je veux mieux réussir au tir, dans telle ou telle activité sportive ou autre, peut-être est-ce que un petit coup de main des artifices techniques va me permettre de gagner quelque chose. Je ne vais pas trancher ce soir sur le fait de savoir si le syndrome des enfants agités avec déficit attentionnel existe ou n'existe pas. On peut se borner à plusieurs constatations, et il est possible qu'il y ait dans la salle des spécialistes bien meilleurs que moi sur la question. Première constatation, on ne connaît de ce syndrome aujourd'hui aucun stigmate moléculaire, anatomique, clairement défini. La seule association qui peut-être tient la route, c'est le variant 10-10 du transporteur de la dopamine, variant situé dans une région non codante, dont personne n'a été capable de montrer, mis à part l'association avec des enfants extrêmement agités, comment il pourrait avoir une influence sur l'agitation des enfants. Personne ne conteste non plus que la dopamine soit impliquée dans l'impulsivité. Et vous avez un magnifique travail dans le Science de la semaine dernière qui décortique comment, chez les parkinsoniens, les systèmes de stimulation par dispositif implanté où on envoie des trains d'ondes à très haute fréquence agissent sur l'impulsivité d'une façon complètement différente de ce qu'on font les dopaminomimétiques qu'on donne sous forme de médicaments. Donc, il est clair que la dopamine fait partie d'un grand nombre de circuits dans le système nerveux, en particulier des circuits de la récompense, en particulier des circuits de l'impulsivité, et il est clair que quand on va interférer avec la dopamine, on va interférer avec les éléments d'impulsivité. Et il est clair que le méthylphénidate ou d'autres médicaments qui interfèrent avec la dopamine interfèrent avec le degré d'impulsivité des enfants. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on constate qu'il y a quelques milliers d'enfants soignés en France, et ça augmente à très haute vitesse. Il y a 3,5 millions d'enfants soignés aux États-Unis, avec une relation parfaitement linéaire entre le niveau socioculturel des parents, prenons une banlieue de Washington comme Bethesda que je connais bien, où 30% des enfants garçons en primaire sont soignés par le méthylphénidate. Donc, une parfaite corrélation entre le niveau socioculturel des parents et le taux de diagnostic du TADA. Force est de se poser la question, pour un syndrome apparu dans le DSM-3, développé dans le DSM-4, puis dans le DSM-4R, développé sur des critères uniquement cliniques, mais ce n'est pas un neurologue qui va critiquer la clinique, et qui, de façon galopante, se développe parce que c'est vrai que quand on donne du méthylphénidate aux enfants, ils se calment. Et que très souvent, aux États-Unis, où les écoles sont privées, ou pouvoir mettre son enfant dans une bonne école et le gage d'une réussite scolaire sociale, bah, où l'enfant est calme, ou il n'est plus dans l'école. Et que la question éthique fondamentale, elle est de savoir où se termine et où commence l'autonomie de la personne, et pour reprendre une phrase de Ricoeur, je commence à avoir une discussion éthique quand je m'interroge en quoi mon action interfère avec la capacité d'autonomie de l'autre. Alors ça, vous y êtes confronté d'une façon encore plus extrême pour les enfants. Parce que les enfants sont des humains à qui on ne reconnaît une capacité d'autonomie que limitée et progressive au cours de la constitution de leur individualité. Et en général, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, la capacité d'autonomie qu'on reconnaît à l'enfant est relativement, pour ne pas dire extrêmement limite. Voilà. Voilà comment, tout d'un coup, la possibilité d'avoir à disposition des molécules, mais on peut multiplier, je dirais presque à l'infini maintenant, mais en tout cas par un très grand nombre, ce genre d'exemple, dans une société de la performance, permet de passer d'une nécessité, je vais prendre comme exemple, le syndrome de cataplexie, c'est un syndrome dans lequel des personnes brutalement s'endorment. Mutation génétique reconnue, il y avait une maladie chez le chien, on a pu mettre au point une thérapeutique, ça s'appelle le modafinil, et c'est très efficace chez les sujets atteints de cataplexie. Ça leur évite de s'endormir brutalement. La maladie elle-même cause des problèmes sociaux absolument énormes. C'est dangereux pour les personnes. Mais à partir de là, on rentre dans des éléments de plus en plus grande contingence. L'armée se saisit de la molécule, parce que maintenir des soldats éveillés sur un champ de bataille pendant plusieurs jours, c'est quelque chose d'intéressant. Et ça peut même se justifier en disant, s'ils s'endorment, ils vont se faire massacrer par les terroristes adversaires que vous voulez. Si je les maintiens éveillés, je les sauve, leur sauve la vie. Et puis on rentre dans une autre contingence, les navigateurs solitaires dans la course au large. Si je m'endors pendant la tempête, je chavire, je meurs. Et puis on rentre dans une dernière contingence, qui est celle de notre société de tous les jours, qui est, si je ne rends pas mon rapport lundi, je suis viré. Et donc, s'il vous plaît, prescrivez-moi un peu de modafinil, que je puisse travailler samedi et dimanche et rendre mon rapport lundi et conserver mon job et nourrir mes enfants. Voilà. Prenez les médicaments qui interfèrent sur l'appétit, prenez des médicaments sur l'humeur. J'ai mis de côté à dessein, on peut y revenir tout à l'heure, mais j'ai mis de côté à dessein les problèmes médicaux quand ils se posaient, c'est-à-dire quand on s'est posé la question des inhibiteurs de la recapture de sérotonine chez l'enfant, parce que ça provoque des passages à l'acte, parce que c'est vrai, on pourrait utiliser ce réfugié sous le parapluie en disant « Ah oui, mais il y a eu un New England l'an dernier qui dit que le méthylphénidate, ça donne un certain nombre de problèmes d'hypertension et d'accidents cardiovasculaires à la longue. » Oui. Mais sur 3 millions d'enfants traités actuellement aux États-Unis, il y a eu quelques dizaines de cas d'hypertension et de troubles cardiovasculaires à long. Donc ne nous abritons pas derrière des artifices techniques, encore une fois. Posons-nous des questions qui soient des questions d'individus, de citoyens, de praticiens. Et posons-nous les questions de savoir qu'allons-nous faire, comment allons-nous réagir, quand des molécules capables de stimuler la mémoire vont apparaître, bien sûr pour les Alzheimer. Mais ensuite, comme pour la sexualité, où 70% des hommes de 50 ans se plaignent d'une sexualité insuffisante, 80% des personnes, tous âges confondus, se plaignent d'une mémoire insuffisante. Quand des molécules efficaces et non dangereuses vont être à disposition, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire pour nous-mêmes? qu'allons-nous faire pour nos enfants? Pourquoi pas leur faire gagner une chance en classe ou d'apprendre leurs leçons mieux? Pourquoi leur refuser ça? Parce que la molécule est dangereuse, parce qu'elle n'est pas encore au point. Oui, mais si elle n'était pas dangereuse. Alors vous voyez qu'à partir de là, on rentre dans cette discussion de, au fond, de l'amélioration de l'espèce. Certains qui proposent, y compris des gens comme Crick, qui n'est plus là aujourd'hui. Alors le deuxième aspect, c'est qu'est-ce que les neurosciences vont nous apporter dans notre façon de concevoir l'individu. Alors il y a une façon, là encore, très technique, très matérialiste et très déterministe, et c'est sur ce mot que je voudrais qu'on reste tout à l'heure, de voir les choses. Vous savez peut-être que un certain nombre d'associations de défense des droits de l'homme aux États-Unis ont utilisé l'IRM fonctionnel, ou l'IRM de tenseur par diffusion maintenant, pour démontrer l'immaturité cérébrale jusque vers l'âge de 18-20 ans, et obtenir de la Cour suprême des États-Unis qu'on ne puisse pas prononcer la peine de mort pour des adolescents de 15 ans, 16 ans, sur le thème « ces personnes, ces enfants sont immatures, donc vous ne pouvez pas les condamner à la peine de mort parce qu'étant immatures, ils sont irresponsables. » Alors, en tant que Français, nous, en tant qu'Européens, on a éliminé la peine de mort depuis 25 ans. On ne va pas pleurer, on ne va pas renoncer à ce petit acquis. Mais est-ce pour autant qu'il faut faire une concession à l'intelligence et utiliser de tels artefacts pour arriver à parler des difficultés ou de tel ou tel comportement et arriver à justifier qu'on ne condamne pas à mort un individu? Je ne le crois pas. Et je ne le crois pas parce que, justement, les neurosciences nous apportent le fait que notre cerveau, comme le reste de notre organisme, encore plus que le reste de notre organisme, est en construction permanente, encore plus chez l'enfant, mais tout au long de la vie, il le reste, il garde des capacités. Mon unité s'appelle plasticité gliale, entre guillemets, parce que 70% de votre cerveau est fait de cellules gliales, et ce sont les cellules qui sont les plus plastiques, entre autres parce qu'elles donnent les cellules souches du système nerveux. Mais tout au long de la vie, on apprend. Même une personne de 120 ans, même Jeanne Calment, la veille de sa mort, elle était capable de se rappeler ce qu'elle avait mangé la veille. Donc elle avait remodelé des synapses dans son hippocampe pour être capable de se souvenir, dans un temps supérieur à la mémoire de travail d'une minute ou à la mémoire de rétention d'une heure, de ce qui s'était passé. Donc forcément, elle avait remanié son système nerveux. Et ça, on le fait tous les jours, des millions de fois, des milliards de fois par jour. Donc, on ne peut plus être aujourd'hui dans une vision mécaniste et déterministe stricte, on est forcément dans ce qu'on appelle une vision conséquentialiste. C'est-à-dire que vous avez clairement l'opposition, pour reprendre cette dimension de la sanction, la dimension rétributionniste, c'est comme ça que ça s'appelle. Il savait ce qu'il faisait, il l'a fait, il est responsable, il l'a bien mérité, donc j'applique la sanction. Vous voyez où ça nous mène au plein plancher. Il l'a fait, paf, la sanction tombe, et il n'y a rien à dire. Et puis il y a une vision conséquentialiste qui est de dire qu'est-ce que la sanction amène à l'évolution du cerveau et donc du comportement de cet individu. Et donc j'essaye d'appliquer une sanction qui, à la sortie, quand il l'aura fait, permet à cet individu un comportement différent, et en particulier de ne pas recommencer la même chose. Là, c'est la vision conséquentialiste, il est capable d'apprendre, et donc j'applique non pas la sanction qu'il a méritée, mais la sanction qui permettra le mieux que la société le mérite. C'est une vision complètement différente de l'individu et de la personne, qui est tout particulièrement importante, me semble-t-il, pour les pédopsychiatres que vous êtes. Alors, où se situe à un moment le basculement? Bon, vous avez tout un courant tout à fait déterministe de la neurophysiologie qui vient des empiristes anglais, de Locke et Hume. Hume pose la question, comment se fait-il que je crois que demain le soleil va se lever? Et Hume répond, bah, comme tous les jours je suis habitué à ce que le soleil se lève, la répétition de l'expérience et la mémoire de cette répétition fait que j'ai une croyance qui est que demain le soleil va se lever. Puis ça tombe bien, le soleil se lève. Quand je vois quelqu'un pincer une corde de violon, pour reprendre cette jeune fille qui s'intéressait aux instruments, eh bien, je sais qu'il va y avoir un son parce que j'ai l'habitude, la récurrence des expériences acquises. Kant va reprendre ça et le contester totalement en disant « pas du tout ». Nous avons dans notre monde aujourd'hui des énoncés scientifiques. Le soleil ne va pas se lever demain parce que je le crois. Le soleil va se lever demain parce que Kepler, Copernic ont démontré les orbites solaires et que comme je sais que la Terre tourne, comme je sais que la Terre tourne autour du Soleil, je peux même dire à quelle heure demain le Soleil va se lever. Il y a des énoncés scientifiques démontrables qui permettent de récuser que la Terre est plate ou que c'est une simple croyance que le Soleil se lève demain. Alors à un moment donné, la question du système nerveux, les neurosciences a basculé parce que vous avez l'expérience de Pavlov et du chien, la petite clochette, la salivation, et tous les jours, vous voyez que vous arrivez à fixer un comportement qui est le comportement de salivation du chien, qui d'ailleurs n'était pas lié à la clochette de Pavlov, mais plus à la blouse blanche de l'expérimentateur, mais enfin, ça ne change rien à l'expérience. L'expérimentateur rentre dans la pièce et le chien salive. Donc finalement, c'est pas dit de la même façon que Locke ou Hume, mais ça revient au même. C'est bien les expériences acquises qui fixent quelque chose. Et finalement, vous mélangez ça avec la vision un peu inéiste de James qui dit nous n'avons pas seulement le fait que je vois l'ours, je comprends que j'ai peur, je tremble et en même temps je m'enfuis, c'est je vois l'ours, je tremble, et ce tremblement, la réaction corporelle que j'ai quand je vois l'ours, me fait prendre conscience que j'ai peur en même temps que je fuis. Et en fait, la fuite arrive même avant que j'ai le temps d'avoir peur. La question est aujourd'hui beaucoup débattue et travaillée autour de l'imagerie cérébrale, et de célèbres expériences qui ont été faites, en particulier le groupe de Damasio, qui a renforcé la notion de la théorie de l'esprit développée par James, parce qu'au fond, Damasio, c'est de la neurophysiologie post-jamesienne, mais tout à fait dans le même état d'esprit. En fait, vous savez que dans les expériences de Damasio, dans l'expérience des parieurs de l'Iowa, on donne à des gens différents jeux de cartes. Il y a des cartes qui gagnent beaucoup, $50, $100 par tirage, mais qui perdent beaucoup aussi quand vous tirez une carte perdante. Et au bout du compte, vous perdez. Et puis, il y a des cartes qui gagnent peu, $10, $25, mais les pertes sont aussi faibles, et donc, au bout du compte, vous gagnez. Et le test consiste à laisser le sujet d'expérience tirer 10 cartes et tous les 10 tirages à lui poser la question: est-ce que vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes capable de nous dire quelle est la règle du jeu? Dans un premier temps, dans les premiers papiers de Becerra, les gens n'étaient pas changés de comportement. Ils tiraient, au début ils tiraient les cartes à fort gain mais fort perte, et puis, au bout d'un moment, ils changeaient de jeu, et quand on les interrogeait, ils n'étaient pas capables de dire pourquoi ils avaient changé de jeu. Et donc, Damasio en avait déduit le fait que James avait raison, et que nous sommes inconscients des raisons qui nous font agir, et nous changeons de comportement avant même de prendre conscience de pourquoi, et après on habille les choses d'un comportement rationnel. C'est la fameuse expérience de gondole de supermarché où on présente à des gens, c'est une vieille expérience, ça date d'il y a 30 ans, on présente à des gens, des étudiants d'une université américaine, on présente des culottes accrochées à un stoliac. Et on leur demande d'en choisir une. Ils en choisissent une, et on leur demande pourquoi ils ont choisi cette culotte. Alors ils expliquent, c'est la couleur, c'est la texture, c'est le sentiment que je vais avoir en la mettant, c'est toute chose parfaitement rationnelle. Le seul problème, c'est que toutes les culottes étaient identiques, et que les gens ont choisi celle qui était en haut à droite. D'où le fait qu'aujourd'hui, quand on veut vous faire acheter quelque chose au supermarché, on vous le met en haut à droite, hauteur de vos yeux. Ça n'a rien à voir avec le regard, ça a à voir avec le fait qu'on a un comportement quand même orienté vers... On est droitier en majorité et hauteur de regard. Et donc, vous verrez, ce qu'on essaye de vous faire acheter au supermarché, on ne vous le met pas en bas. En bas, c'est le premier prix. C'est, on vous le met exactement à droite et à hauteur de regard. Revenons à l'expérience de Damasio qui a été reprise récemment et qui doit nous amener, un, à comprendre que les découvertes des neurosciences sont extrêmement importantes, mais deux, qu'elles sont, comme toute science, évolutives et progressives. L'expérience a été reprise avec un questionnaire beaucoup plus détaché, beaucoup plus détaillé, excusez-moi. Et on se rend compte que les gens ne comprennent pas pourquoi, enfin, ne comprennent pas tout de suite la règle du jeu, mais comprennent que s'ils continuent à tirer des cartes à fort gain, ils perdent. Et donc ils changent de comportement, certes sans avoir compris toute la règle du jeu, mais en ayant compris que s'ils continuent comme ça, ça ne marche pas. Donc finalement, les choses ne sont pas tranchées, car les gens agissent quand même avec une perception. Et donc la théorie de l'esprit reste en débat aujourd'hui. Où est-ce que je veux en arriver avec tout ça? Je veux en arriver au fait que, pour faire bref, on a un gros cerveau préfrontal qui nous permet d'élaborer des scénarios et de résoudre des problèmes. On a derrière ça tout un circuit limbique qui est le circuit d'action rapide des émotions, et on a au milieu un certain nombre de comparateurs ou un certain nombre d'éléments qui font la balance, en particulier l'amygdale, en particulier le noyau ventromédian du cortex préfrontal. Ça, c'est des carrefours. Évidemment, quand ces carrefours sont lésés, vous avez des troubles extrêmement spectaculaires. Pour le ventromédian du préfrontal, c'est la fameuse baramine qui a traversé le crâne de Phineas Gage, et cet ouvrier modèle qui a réchappé du fait qu'une tige d'un mètre de long et de 1,5 cm de... Non, 3 mm de diamètre lui a traversé le crâne. D'ouvrier modèle est devenu un débauché, incapable de s'occuper de lui et tout ça. Donc, oui, ça provoque des lésions. La lésion de l'amygdale provoque bien des choses. Par exemple, les gens ne sont plus capables de changer de comportement dans le test des parieurs de l'Iowa. Par exemple aussi, ce test particulièrement important pour revenir à la question du regard, qui est que tous nos comportements sont des comportements socialisés, anthropomorphisé. Le test est le suivant, on projette à un certain nombre de personnes, témoins ou patients, avec une amygdale lésée, un film d'animation expérimental qui a été fait dans les années 40, qui est en noir et blanc. Dans ce film d'animation, on voit un grand triangle rentrer dans l'écran, bouger, on voit un petit cercle rentrer dans l'écran, bouger, et à certains moments, il y a collision des deux figures géométriques. Et le cercle peut ou ne peut pas sortir de l'écran. Et puis, vous avez un petit triangle qui, à d'autres moments, vient s'interposer entre le grand et le petit cercle. Quand vous demandez à des sujets normaux qu'est-ce qu'ils ont vu, ils racontent une scène où un méchant triangle vient essayer de croquer un petit cercle gentil, et il essaye de s'enfuir, et heureusement, il y a un petit triangle courageux qui essaye de le protéger, mais qui n'y arrive pas toujours. Quand vous demandez à des gens qui ont l'amygdale lésée qu'est-ce qu'ils ont vu, ils ont vu un grand triangle, ils ont vu un petit triangle, ils ont vu un petit cercle. Et ils décrivent des figures géométriques. Donc, on ne peut pas, dans le comportement normal, ne pas projeter une réalité sociale, même sur les formes géométriques les plus simples. Nous savons aussi que notre comportement s'élabore en réaction, et tous les travaux aujourd'hui des neurophysiologistes de l'enfant nous permettent, sans vouloir faire un jugement de valeur sur quelqu'un que j'ai admiré dans mes études de médecine et que je continue à admirer, mais aujourd'hui, les théories de Piaget doivent être complètement revues, parce que beaucoup d'éléments de base de la cognition existent avant l'acquisition du langage. Les très jeunes enfants, 4-6 mois, sont capables de dénombrer, sont capables de reconnaître des visages et l'émotion des visages, sont capables de reconnaître des formes, sont capables d'avoir du dégoût. Et ils le font d'abord par assimilation du regard de l'autre. Et c'est à ça que je voulais revenir. Parce que l'une des découvertes les plus importantes, probablement des dernières années en neurophysiologie, c'est la notion d'empathie. Alors ça a commencé avec Rizzolatti, il y a quelques années, avec les neurones miroirs. Vous savez que quand un singe voit un de ses congénères manger une banane, il active dans son cortex moteur les mêmes neurones que s'il mangeait lui-même la banane. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que quand une personne voit une autre personne mimer la peur, elle active dans son système nerveux des régions qui sont activées dans sa propre peur. Et plus récemment encore, dans l'équipe de Colette Dehaene, par exemple, quand des enfants très jeunes, 8 mois, perçoivent le dégoût de leurs parents, enfin une grimace de dégoût, ils activent des régions du système nerveux qui sont impliquées dans le dégoût. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre système nerveux, loin d'être un simple organe perceptif comme une caméra, quelque chose de figé, de déterminé, qui enregistrerait une réalité extérieure, vit le monde extérieur. Nous ne sommes pas simplement une caméra. Ce qui se passe dans le monde se passe en fait à l'intérieur de nous et prend naissance ou cohérence en une comparaison entre la logique qui nous anime et le monde qui nous entoure. Notre cerveau est une machine à anticiper le monde. Quand vous marchez dans la rue, vous ne testez pas la rigidité du sol. Si vous montez une pente, vous ne cherchez pas à se déterminer le bon angle de votre corps. Si vous discutez avec un ami, vous pouvez traverser des rues, vous pouvez croiser des gens que vous connaissez, vous en souvenir 5 minutes après parce que vous les avez vus, mais pas prêter attention. Votre conscience est mobilisée quelque part et l'essentiel de l'activité cérébrale se passe hors du champ de conscience. Pourquoi ? Parce que votre cerveau a fait des tas de calculs sur la vitesse de marche, le vent, le fait qu'il faut que vous vous arrêtiez au feu rouge et tout ça. Tout ça dans un environnement parfaitement inconscient pour vous, parce que très peu de choses arrivent à la conscience. Je ne parle pas de l'inconscient psychanalytique, je parle de l'inconscient neurophysiologique. Et que le cerveau, ce gros cortex préfrontal, a passé son temps à calculer tout ce que vous allez faire, calculer le mouvement de la main pour que mon bras en avant ne tombe pas, calculer par anticipation la vitesse à laquelle il faut que vous marchiez pour avoir le feu vert ou le feu rouge, etc., etc. Et à côté de ça, la perception, ça sert juste à vérifier que c'est à peu près vrai ce que vous voyez. Donc, les neurosciences sont en train de bouleverser la conception qu'on a de l'individu, parce que le monde n'est pas hors de nous, le monde est en nous. Le monde n'est pas les choses d'un côté et les êtres de l'autre. Le monde est une socialisation qui prend naissance en nous. Et le monde n'est pas une perception suivie d'une réaction. Le monde est une anticipation permanente de notre cerveau sur les objets qui nous entourent, l'intentionnalité des êtres qui nous entourent, la reconnaissance de cette intentionnalité et la capacité que nous avons à vivre dans ce monde intérieur qui est l'extérieur vécu à l'intérieur de nous-mêmes. À partir de là, vous comprendrez bien qu'une vision mécaniste, déterministe de ce cerveau est totalement impossible et que nous devons repenser comment nous conduisons au monde au regard de ces nouvelles connaissances.